Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et comme tous les vendredis, on parle de bande dessinée. Bonjour tout le monde. Dans un instant, nous rejoindra Sonia Deschamps, qui sera déguisée en Père Noël. Sonia Deschamps du magazine Casemate nous fera une sélection des bandes dessinées qu'on peut offrir à ses amis et proches. Mais en attendant, je suis avec mon invité. Mon invité du jour est Nejib. Sa dernière bande dessinée, Swan, le buveur d'absinthe, tome 1 d'une série qui nous entraîne dans le Paris du 19e et des impressionnistes, sort et elle mérite, elle aussi, de trouver une bonne place au pied des sapins de Noël. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre, soit en direct à la radio, c'est-à-dire de bon matin, de 6h à 6h30 sur France Culture, soit en différé, c'est-à-dire écoute en ligne ou abonnement au podcast, en passant par l'application de Radio France ou iTunes. Corinne Amar à la coordination, Claude Nior à la prise de son et Vincent Abouchard à la réalisation, c'est parti.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Nejib.
Bonjour.
Alors, Swan. Le buveur d'absinthe. Alors rien qu'au titre, et aussi à la couverture, je dois le dire, deux noms nous viennent à l'esprit, Marcel Proust et Édouard Manet. Alors, mais où va nous entraîner Nejib, l'auteur de cette bande dessinée éditée par Gallimard? Alors pour Manet, on a tout juste, on peut le dire. Hein. On a tout juste, le titre renvoie bien au tableau du maître, sa première grande œuvre réalisée entre 1858 et 1859. Et d'ailleurs, Manet est au centre de cette intrigue, de cette histoire qui rend hommage au peintre de l'impressionnisme. Mais il s'agit d'abord de deux Américains à Paris, hein, dans le Paris d'avant Haussmann, un Paris lugubre donc, même si les travaux de rénovation commencent. Et les deux jeunes Américains de New York, Scotty et sa sœur Swan, s'ils rejoignent leur cousin, un certain Edgar Degas, c'est parce qu'ils sont attirés d'abord par Paris, capitale des arts, et que le frère veut s'inscrire aux Beaux-Arts. Sauf qu'il se trouve que la vraie artiste est plutôt la sœur. Hein.
Voilà, c'est ça, c'est la révélation de ce début de récit. C'est qu'en effet, c'est Swan, donc sa sœur, qui est en fait, qui est aussi douée pour le dessin que son illustre cousin Edgar Degas. Et malheureusement pour elle, elle est dans une société, dans une époque qui ferme beaucoup de portes aux femmes, et notamment l'école des Beaux-Arts de Paris, qui est son rêve, qui est le rêve de beaucoup d'aspirants artistes à l'époque.
Oui, à l'époque, les femmes ne peuvent être que modèles, hein, si elles veulent pénétrer ce monde de l'art.
Alors, elles peuvent être modèles, et même ça, en fait, contrairement à ce qu'on pense, à l'école des Beaux-Arts, les modèles féminins, ça suscitait beaucoup de problèmes chez les garçons, chez les jeunes rapins, les jeunes peintres aux Beaux-Arts. Donc même, en fait, la figure du modèle féminin, c'était très très encadré. Il fallait que le maître soit là pour qu'il n'y ait pas de débordement. Et les femmes, alors, pouvaient apprendre la peinture, mais c'était pour agrémenter la vie de leur mari. C'était pas du tout pour faire carrière. On pouvait être peintre amateur, mais certainement pas professionnel.
On l'a compris, c'est une fiction. Dans cette fiction, on va rencontrer des vrais personnages, des vrais peintres, des maîtres, pas seulement des peintres, des écrivains. On parlera de Baudelaire dans un instant, je suppose, avec vous, Nejib. Ouais. Mais pourquoi avoir choisi cette époque, ce Paris des impressionnistes, la naissance de l'art moderne? Est-ce que c'est pour le plaisir de dessiner le Paris qui se transforme, ou pour parler de la place des femmes? Est-ce une réflexion sur l'art? Est-ce juste pour le plaisir de dessiner le Louvre, qui était tellement différent à cette époque-là, et reproduire les grands chefs-d'œuvre?
Alors, évidemment, il y a un peu de tout ça, mais le point de départ, c'est que je travaillais sur mon précédent livre, Stupor Mundi. J'ai fait pas mal de recherches iconographiques, et il se trouve que sur Internet, il y a cette interface qui s'appelle Pinterest, une interface de collectionneur d'images, et j'ai redécouvert une passion de jeunesse, on va dire, qui est la peinture. Et en fait, on a accès à beaucoup plus d'œuvres que à travers les livres. Là, c'est quand même une supériorité, on va dire, d'Internet pour ça. Et du coup, j'étais étonné parce que, bon, comme je me suis passionné pour cette période, il n'y avait pas de récit de fiction, précisément. Il y a des biographies. Et encore, les biographies sont toujours axées sur un individu. Mais il n'y a pas, presque pas, de récit collectif. Et ça, c'est ce qui m'intéressait au départ. C'est-à-dire comment des gens aussi différents que... ce misanthrope qui est devenu antisémite sur le tard, comme Degas et Pissarro, ce juif né dans les îles, Manet, ce grand bourgeois extraverti, ont pu tous, en fait, aller dans le même sens et produire ce qui est pour moi le peut-être le dernier grand mythe français. C'est en effet, pendant 30 ans, on produit autant de grands peintres qu'en 5 siècles. Donc c'est un vrai mystère et j'ai voulu m'attaquer à cette grande question. Et évidemment, c'est une période où il y a tellement de choses... Il y a tellement de choses à raconter, il y a tellement de plaisir à dessiner cette période que je me suis pris au jeu.
Vous dessinez cette période, le Paris de cette époque, mais vous gardez bien de reproduire les œuvres. Comme si votre envie, Najib, était non pas de faire quelque chose de très documenté sur les œuvres en question, de re-raconter l'histoire de l'art de cette période, mais de donner vie à ceux qui ont fait cette époque.
Bah, vous avez dit le mot, c'est donner vie. C'est-à-dire que moi, je suis pas très client des biopics, c'est pas un récit pédagogique sur ce que c'est que la naissance de l'impressionnisme. C'est, je crée des personnages pour être avec eux dans cette période et pour refaire vivre cette période. Donc c'est vraiment plutôt, les relations des uns avec les autres ou des uns contre les autres, qu'est-ce que c'est que la peinture, qu'est-ce que c'est que la jeunesse à Paris à l'époque. Et c'est vrai que sur cette période, on a toujours l'image de vieux barbus voilà devant leur tableau. Mais en fait, moi, la période que je raconte, c'est celle où ben ils ont 25 ans, 26 ans. C'est des rockers ou c'est comme des cinéastes de la nouvelle vague dans leur jeunesse. C'est-à-dire, c'est des gens qui veulent
des
tout
bouffer. Des anarchistes en redingote. C'est voilà pour Manet.
Manet, c'est un anarchiste en redingote. 100 ans plus tard, on aurait dit un punk ou je ne sais quoi.
Baudelaire, très présent aussi.
Baudelaire, voilà. Baudelaire, c'est vraiment le grand frère puisque lui, il fait la jonction entre celui qu'ils vénèrent tous, qui est Delacroix,
qui est vieillissant, là.
Qui est vieillissant, c'est, disons, plus que le grand frère, c'est celui qui a osé faire bouger les lignes, puisque, il faut le dire, en France et donc en Europe à l'époque, la peinture est dominée par ce qu'on a appelé plus tard les académiques, c'est-à-dire la peinture néoclassique qui respecte des règles très rigides, très contrôlées, très centralisées. Et voilà, c'est toute cette génération qui va en fait construire quelque chose, non pas autour d'un programme théorique très précis, mais plutôt contre leur père. C'est vraiment le rapport au paternel, quoi, qui leur façonne une société bourgeoise très étriquée avec des règles très 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 strictes et très hypocrites. Et eux, en fait, vont porter la vie, en fait, quelque chose. Eux, ils vont vouloir peindre et raconter le contemporain, leur vie, ce qu'ils voient autour d'eux. Et c'est cette tension que j'ai voulu raconter à travers une vraie fiction et non pas un documentaire.
Et c'est pas seulement une fiction, ce qui rend cette bande dessinée vraiment originale, Najib, c'est-à-dire Swann, le buveur d'absinthe, c'est que vous traitez ça comme un feuilleton de l'époque, comme un feuilleton du 19e.
Oui, tout à fait. Pour me replonger dans cette période, j'ai relu Zola, Maupassant, les frères Goncourt. Et j'étais frappé du parallèle qu'on pouvait faire entre une construction de feuilleton, puisque le roman littéraire français naît du feuilleton de la presse, qui a vraiment un élément très important à l'époque. Donc on doit livrer chaque semaine un chapitre, en fait. Et donc les chapitres ressemblent à nos séries d'aujourd'hui, où c'est un épisode, et un roman, c'est une saison d'une série d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses comme ça, de parallèles qui m'ont beaucoup plu. Et j'ai voulu du coup reprendre cette forme du chapitre où à chaque fin de chapitre, on a ce qu'on appelle aujourd'hui un cliffhanger, c'est-à-dire on reste sur sa fin, on a envie de tourner la page et de voir ce qui se passe après. Donc voilà, j'ai voulu emprunter cette forme très dynamique du récit de l'époque pour Swann.
Ce qu'on assiste à dans ce premier tome de Swann, c'est quand même le chef-d'œuvre de Manet.
Voilà, le buveur d'absinthe, qui est sa première tentative au salon, parce qu'il faut comprendre qu'à
l'époque... Il a 26 ans à l'époque.
Hein. Il a 26 ans, c'est ça. Et non, il a 28 ans et Degas a 26 ans. Mais ils sont vraiment des débutants, en quelque sorte. Et pour un peintre, il faut absolument se faire accepter au salon. Sinon, il n'y a pas de carrière, il n'y a pas de clientèle, il n'y a pas de visibilité. À l'époque, il n'y a pas des expos ou des galeries comme aujourd'hui.
Et ça, c'est le deuxième défi, hein, parce que le voilà. Premier défi, c'est déjà d'intégrer l'école des Beaux-Arts. Vous le racontez très bien.
Voilà, donc ça, c'est le frère Scott qui va rentrer à l'école des Beaux-Arts. Mais Manet, lui, n'est pas rentré aux Beaux-Arts. Il a eu un maître qui s'appelle Thomas Couture, qu'on va voir aussi dans ce récit. Et lui, il va présenter au salon avec les encouragements de son ami Baudelaire. Alors ça, je l'ai découvert. Il se voyait quasiment tous les jours au Jardin des Tuileries. à discuter. Et il va présenter un... Il veut... C'est vraiment le rebelle qui veut faire bouger l'institution. Et il va se faire refuser parce qu'il va... Il va présenter un tableau qui contrevient à toutes les normes de la peinture bourgeoise de l'époque avec ce buveur d'absinthe.
Et ça fera un scandale.
Et ça fera, ça va pas faire un scandale dans le sens où il va être refusé. Et donc lui, il va changer, et ça on verra dans le tome 2, il va changer sa stratégie, il va plus aller dans la séduction avec un tableau qui s'appelle le chanteur espagnol. Et tout ça va aboutir au vrai scandale qui sera le troisième salon où il présentera le déjeuner sur l'herbe, où en fait, voilà, Manet va hésiter, mais le naturel reviendra au galop, c'est-à-dire qu'il veut vraiment... changer de système.
Et le buveur d'absinthe, il faut le dire parce que vous le rappelez, Delacroix, vieillissant peut-être, mais il est sensible, il est le seul à avoir défendu cette œuvre
voilà.
de Manet.
Alors c'est toujours assez délicat parce qu'en fait, dans tout ce que j'ai lu, c'est des comptes rendus, c'est des témoignages, mais le seul qui aurait défendu le...
Ah, donc c'est une lecture, ça, c'est pas documenté.
Si, c'est documenté, mais disons que ce sont plusieurs témoignages concordants pour dire que Delacroix aurait été le seul à défendre ce tableau. Mais comme je montre dans cet album, c'est le jury se... fait des tractations, c'est-à-dire tel peintre dit d'accord, moi j'accepte ce tableau, mais alors il faut me prendre. Chacun en fait défend sa boutique et son esthétique, et c'est ce qui aboutit encore une fois à un salon toujours très rigide, très fermé à la nouveauté, très très fermé aux peintures un petit peu différentes.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Autour de la bande dessinée de Nijib, Swan. Premier tome, Le buveur d'absinthe, édité par Gallimard. Bande dessinée dans cette bande dessinée, dans ce feuilleton que vous installez, Nijib. Donc, je le disais, on rencontre Ingres, Manet, Fantin-Latour, Baudelaire et des personnages de fiction. Ces deux Américains, en fait, qui viennent à Paris. Un frère et une sœur, chacun avec leur personnalité, leur secret. Donc, donc vous avez tous les ingrédients, effectivement, pour nous tenir en haleine, comme dans un feuilleton du 19e siècle. Et bien sûr, c'est la sœur qui va s'avérer être l'artiste. Mais comment être artiste dans un milieu qui est très fermé aux femmes? Donc, ça vous permet aussi de poser cette question. Ça permet aussi de nous raconter à quoi ressemblait le Louvre à cette époque.
Oui, le Louvre, c'est vraiment un élément clé de la peinture française de cette époque-là, parce qu'en fait, tous les peintres, tous les apprentis vont au Louvre copier. En fait, c'est la véritable école française, plus que les Beaux-Arts, puisque les académiques, les novateurs, les impressionnistes sont tous allés copier au Louvre. Et donc ils se voyaient tous, ils se rencontraient tous, et ça c'était un défi aussi pour ce récit, c'est-à-dire que c'est vraiment un cas où la réalité dépasse la fiction, c'est-à-dire qu'en effet tout ce monde-là se connaissait, c'est-à-dire Courbet, Baudelaire, Zola, ils se connaissaient tous, c'est-à-dire il y a même des coïncidences incroyables. Il faut savoir que Zola et Cézanne sont des copains d'enfance d'un village du sud de la France complètement paumé, et ils se retrouvent quand même tous les deux à Paris, et ils vont produire tous les deux une œuvre extraordinaire. Donc, c'est vraiment très français, c'est-à-dire Paris et même quelques quartiers est vraiment le centre de tout ce qui se passe d'un point de vue artistique, littéraire. Donc tout ce monde-là se rencontre. Évidemment, le Louvre, c'est le centre névralgique de la peinture française au 19e. Et puis pour un récit, c'est vraiment très pratique, puisqu'en fait, il suffit de, si on a envie de trouver un point de convergence où tout le monde se retrouve, c'est le Louvre. Il y a évidemment aussi les cafés et l'École des Beaux-Arts, qui sont les trois lieux clés pour comprendre cette révolution de la peinture française au 19e.
Et autour du Louvre, Paris est en ruine. Est-ce que, Najib, vous allez profiter aussi de cette série, de ce feuilleton, pour raconter la transformation de Paris?
Oui, ben il y a une scène au début très importante entre Edgar Degas et sa cousine Swann, où ils sont devant des ruines, c'est-à-dire il y a les ouvriers qui percent des rues entières à Paris, et c'est évidemment plus qu'une métaphore. Les peintres et les jeunes gens de l'époque voient bien que le monde se transforme devant leurs yeux. On transforme Paris, on le modernise,
mais
on détruit
le transforme. C'est eux qui le transforment.
Et eux le transforment. Donc c'est vraiment une époque où tout va très vite. Il y a aussi le train. On verra aussi dans le tome 2. C'est-à-dire il y a la vitesse qui arrive. On va voyager.
Tout est écrit, ça y est.
Le tome 2, oui, tout est écrit pour le tome 2.
Il sort quand, le tome 2?
Le tome 2, j'espère qu'il sortira en juin. Voilà, je suis en train d'avancer dessus. Et on va explorer aussi d'autres éléments de ce qu'on appelle la vie moderne.
Et tout ça, c'est vu, bien sûr, par des Américains. Il vous fallait vraiment des personnages venus d'un autre continent, d'un autre monde, pour bien montrer les détails. Et enfin, pour terminer, Najib, alors, bien sûr, le fait de découvrir Paris, l'art, de s'initier à la peinture, je me suis dit, mais c'est sans doute l'histoire de Najib, qui est d'origine tunisienne. Alors là, je me suis trompé, parce que vous êtes peut-être né en Tunisie, mais vous arrivez en France à l'âge de 10 ans.
Oui. Je suis franco-tunisien, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans en Tunisie, mais je suis pas arrivé tout de suite à Paris. Mais
et vous n'êtes pas arrivé pour la peinture, contrairement à vos personnages.
Non, je suis pas arrivé pour la peinture, même si je dessinais déjà tout petit. Après, je pense comme beaucoup de gens qui arrivent à Paris, c'est-à-dire moi je suis arrivé à Paris étudiant, on est un petit provincial. Enfin, moi, j'étais un banlieusard, mais j'y allais pas si souvent que ça. Et il y a évidemment quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que, à Paris, il y a des codes, il y a la manière dont fonctionnent les gens quand on arrive dans une école d'art, ce que j'ai fait aussi.
Comment êtes-vous arrivé justement à faire Art Déco?
Je faisais de la bande dessinée dans mon coin, et puis j'ai envoyé quelques planches à un directeur artistique dans un journal, et il m'a conseillé, il m'a appelé, il m'a dit c'est pas mal, mais il faut rentrer dans une école d'art. Donc j'ai passé des concours et j'ai été reçu aux Arts décoratifs de Paris. Et c'est comme ça que je suis devenu étudiant en art, et je me suis inspiré aussi de petites choses de ma jeunesse dans ce domaine-là pour nourrir ce récit, parce que dans mes lectures, parce qu'il y a beaucoup de récits aussi de gens qui ont été dans les Beaux-Arts ou dans les ateliers d'Ingres, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont franchement exactement les mêmes, hein, sur les petites jalousies, les rivalités, l'ambition, les ratages. Tout ça, c'est quelque chose d'universel et qui traverse les époques, je pense.
Swann, le buveur d'absinthe, c'est le premier tome donc de cette série. C'est édité par Gallimard Bande Dessinée. Merci, Najib, d'être passé ce matin à nous en parler.
Merci à vous.
Bonjour Sonia Deschamps.
Bonjour Toufik.
Du magazine Casemate. Alors moi je disais à Najib que sa bande dessinée a sa place au pied du sapin, hein. Surtout si on a une nièce ou un neveu qui ne veulent pas aller au musée spontanément, ben voilà une belle aventure qui peut-être leur ouvrira les chemins des musées.
Totalement, même pour tout le monde, pas forcément pour les neveux et les nièces. C'est vrai que le fond est passionnant, vous en avez parlé tout au long de l'entretien, et je trouve que Nejib a vraiment un style qui s'affirme, et sa plume est vraiment très belle, son trait a vraiment quelque chose de singulier, on le reconnaît immédiatement, et je pense que vraiment il fera partie des grands sur qui il faudra compter dans les prochaines années, donc évidemment à mettre sous le sapin cet album.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres cadeaux de Noël que voulez offrir à les... Ça sera
là,
votre sélection des livres jeunesse et bande dessinée de cette année, Sonia
Deschamps. Voilà, justement, le neveu et la nièce, le petit neveu ou la petite nièce pour fin du primaire, collège, et deux albums absolument superbes, deux bandes dessinées, donc, et c'est un hasard total, mais ces deux albums mettent en scène des jumeaux. Pourquoi je ne sais pas. Stig et Til de Max de Radiguès, c'est publié aux éditions Sarbacane. Alors là, on est dans un récit d'aventure avec un soupçon de fantastique. Stig et Til, ce sont donc des jumeaux, je le disais. Ils ont 14 ans et là où ils vivent, c'est un pays imaginaire. On imagine plutôt un pays scandinave. Et bien là où ils vivent à 14 ans, il y a un rite de passage, c'est le culcu. Les ados doivent passer un mois sur une île sans adultes. Problème, Stig et Til vont s'égarer en mer et échouer donc sur l'île du disparu qui donne son titre à l'album. On a toujours ce dessin très très simple de Max de Radiguès, très simple au meilleur sens du terme, c'est dynamique, épuré, vivant.
Ouais.
Totalement prenant. Le tome 2 vient tout juste de sortir, donc ça fait deux bons albums à mettre sous le sapin, ces deux premiers tomes. Autre album pour les plus jeunes, Les Crocs de Léa Mazet aux éditions de La Gouttière. C'est une vraie découverte, cette dessinatrice. Je ne la connaissais pas. Elle publie simultanément deux albums, un autre également chez Dargaud, très beau. Les Crocs, c'est Céline et Colin, des jumeaux encore donc. Au collège, leurs camarades les appellent Croque-Mort et Croque-Mitaine. Faut dire que leur maison est collée au cimetière et que leurs parents tiennent une entreprise de pompes funèbres. On a vu plus fun pour grandir. Hein. Alors un jour, ils sont punis, ils doivent rester chez eux. Et leur père ne veut pas qu'ils restent chez eux à s'amuser parce que c'est pas vraiment une punition ça. Donc il va leur demander de nettoyer le cimetière. Et là, eh bien, ils vont faire une découverte. Et si un trésor y était caché? Alors dès les premières pages, on s'attache vraiment à Céline et Colin. Et comme eux, bah, notre cœur il bat très fort. Même moi, très grande, mon cœur il battait très fort avec eux dans le cimetière. Ils retournent en cachette la nuit dedans pour trouver ce trésor et ils vont découvrir c'est intriguant, drôle, sensible, c'est graphiquement vraiment très très beau.
On rappelle le titre,
c'est Les Crocs et c'est de Léa Mazet aux éditions de La Gouttière.
Et enfin,
un coup de cœur qui dure, puisque c'est là encore une série, on en est au quatrième tome, mais il peut tout à fait se lire indépendamment des autres tomes. C'est La Cantine de Minuit de Yaro Abe aux éditions du Lézard Noir. Alors La Cantine de Minuit, je vous resitue tout ça, c'est le surnom donné à un petit restaurant qui se situe tout au fond d'une ruelle du quartier de Shinjuku, donc à Tokyo. C'est une petite gargote qui, de minuit jusqu'à l'aube, voit les clients se croiser et se confier. Chacun commande ce qu'il veut, un udon, de la saucisse de poisson, du tofu frais. Et chaque plat, en fait, dit quelque chose de l'intimité
c'est
du personnage
très, très bon.
Qui le commande. Le besoin de la chaleur d'un homme, le souvenir d'un frère perdu du. Et moi, ce que j'aime avec ce livre profondément, c'est qu'on a le sentiment que les personnages nous parlent directement. Qu'on est assis avec eux au comptoir. Alors, à défaut d'offrir un billet d'avion pour l'autre bout du monde, c'est une très jolie invitation au voyage, cette cantine de Minuit qui fait partie de la sélection officielle d'Angoulême, avec également Stig et Til de Max de Radiguès qui est en sélection également.
D'autres propositions de cadeaux, Sonia Deschamps?
Alors c'est chez Martin de Halle, je ne sais pas exactement si ça se prononce comme ça, mais en tout cas c'est Franz Mazerelle, l'empreinte du monde. Voilà ce que Stefan Zweig dit de Franz Mazerelle, disait « Si tout était anéanti, livres, monuments, photographies, descriptions, et qu'il ne resta plus que les bois qu'il a gravés en 10 ans, on pourrait avec eux seuls reconstituer le monde d'aujourd'hui. » C'est donc une monographie, ce livre tout simplement magnifique pour tous ceux qui s'intéressent au dessin, à la gravure et aux origines du roman graphique moderne. Près de 400 gravures très très bien imprimées, c'est juste sublime. Et un petit dernier, on passe du noir et blanc à la couleur. Et quelle couleur, hein, c'est Les Rigoles de Brecht Evans que je vous conseille. C'est publié chez Actes Sud. C'est une déambulation nocturne dans les rues de Paris. L'histoire, c'est celle d'un homme qui passe une dernière nuit dans la ville avant de rejoindre son amoureuse à Berlin. Aucun de ses amis n'étant disponible, il va s'en remettre au hasard. Alors, comme d'habitude, l'auteur joue avec l'aquarelle, joue avec les transparences, les superpositions, avec de superbes pleines pages qui fourmillent de personnages. Les couleurs vibrent vraiment et les émotions sont au rendez-vous. Dans l'émission Les Temps qui courent, Brecht Evans a dit cette phrase que je trouve très belle et très juste. Cette BD est une grande célébration de la vie, avec des personnages qui ont un peu de mal à la célébrer. Donc voilà, c'est vraiment un très bel ouvrage que je vous conseille.
On rappelle vos coups de cœur et vos propositions de cadeaux de Noël,
Alors,
Sonia Deschamps.
Alors, pour les plus jeunes, Stig et Til de Max de Radiguès aux éditions Sarbacane, Les Crocs de Léa Mazet, c'est aux éditions de La Gouttière. On a également La Cantine de Minuit de Yaro Abe aux éditions du Lézard Noir, Franz Mazerelle, L'Empreinte du Monde chez Martin de Halle, et puis Les Rigoles de Brecht Evans aux éditions Actes Sud.
Et on peut aussi offrir une place pour aller voir l'exposition. Vous qui parliez de billets d'avion pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller au Japon, on peut dire la même chose pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter à Paris, s'ils passent à Paris cette semaine de fête, il y a une grande expo Manga Tokyo, et c'est à la Grande Halle de la Villette. Et vous êtes allée faire un tour, Sonia Deschamps?
J'ai été y faire un tour, effectivement, et je l'ai trouvé très réussi. Je ne m'attendais pas à avoir autant de planches, et je trouve ça vraiment, vraiment superbe. Et puis, il y a vraiment des reconstitutions de quartiers, des boutiques. À un moment, on peut rentrer dans le métro aussi de Tokyo. C'est vraiment très bien fait, c'est assez passionnant.
Merci à vous, Sonia Deschamps, et joyeuses fêtes à vous aussi.
À vous aussi.
À très vite.